PolySécu, épisode spécial. Je suis accompagné de Andréane et Olivier.
Salut.
Bonjour.
Olivier se fait son gêner, mais ça tardera pas pour renverser. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse moi. Là, c'est un peu, je suis peut-être un peu égoïste dans mon approche. Là, au niveau de la recherche en cyber. Puis, je veux vous approcher, vous deux, justement, parce que vous faites ça de façon à temps plein. C'est votre job, essentiellement. Et il y a beaucoup cette espèce d'état-là dans la cyber en particulier, mais aussi dans d'autres domaines, que d'arriver à faire de la recherche, c'est comme la médaille d'honneur, c'est comme le achievement total. Tu as réussi ta vie parce que tu as fait de la recherche. La réalité est tout autre. Puis j'aimerais ça vous entendre parler de qu'est-ce que la recherche, que ça représente, puis vous avez déjà un peu. Puis justement, c'est intéressant, puis vous avez un profil, Andréane, qui est typiquement recherche, et Olivier, qui est typiquement pas recherche. Et justement, ces deux mélanges-là vont être très intéressants à regarder et comment ça s'exprime et comment vous vivez ça. Et justement, de démystifier cet environnement-là, soit pour intéresser les gens qui auraient le profil pour ce genre de choses-là, ou de désintéresser les gens qui n'ont pas ce profil-là et justement d'éviter de se péter la face sur des choses qui vont les rendre malheureux dans leur vie professionnelle et justement de pouvoir progresser. Fait que je vous lance la balle.
Ouais. Olivier, tu veux pas commencer? On dirait que tu te grattes la tête.
C'est ben trop de longues questions. Non, mais...
J'essaie de faire un effort de pas mettre 10 points dans mon introduction comme la dernière fois, mais j'ai un effort limité, fait que...
Non, mais là, on commence ça un peu drôle. Mais non, mais Andréane, je pense que dans sa question, ce que je trouve intéressant, c'est toi qui as un profil recherche. Donc, pourquoi tu commencerais pas à nous parler de... Justement, ton profil de recherche, comment tu vois la recherche?
Ouais, ben, tu sais, on avait déjà mentionné dans un autre podcast, mais là, je redonne l'information ici. Tu sais, mon parcours, il est académique, là. Fait que je suis chercheur, là. C'est ce que je suis affiliée à l'université, là. Donc, donc j'ai fait un doctorat en recherche en criminologie. Donc, c'est beaucoup d'études, beaucoup de temps, d'années de ma vie que j'ai consacré à focusser sur un sujet, tu sais, en particulier. Donc ça, c'est probablement le premier élément que tu sais, de réponse que tu mentionnes. C'est le focus, hein. C'est ça qui est comme important, là. Il y avait 1000 choses qui m'intéressaient, mais il a fallu que j'apprenne à me contenir puis à aller dans une direction. Tu sais, j'avais tout le temps 2-3 projets de recherche en parallèle parce que moi, j'ai besoin d'être stimulée de toutes sortes de façons. Sur différents sujets parce que je voulais apprendre aussi beaucoup en même temps. Mais l'important, c'est qu'il y ait un projet de recherche qui arrive au bout, qui donne le résultat que tu veux, que tu répondes finalement à ta question de recherche. Puis peu importe, ça peut, comme mon doctorat a duré 5 ans, donc ça a pris 5 ans, parce que c'est long répondre à une question de recherche de manière rigoureuse et scientifique. Donc, effectivement, c'est pas donné à tout le monde, puis c'est pour ça qu'il faut pas le voir comme étant la finalité, c'est comme la progression et la finalité en recherche, c'est pas ça, c'est une job en parallèle avec toutes les autres qui sont aussi importantes.
De mon côté, ben c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire je ne suis qu'un bachelier en ingénierie et j'ai voulu travailler tout de suite. Alors, tu sais, je dis, les gens qui me connaissent bien savent que j'aimerais ça finir en enseignement. J'aime beaucoup partager des connaissances, j'aimerais ça enseigner. Mais les pires professeurs à l'université en ingénierie, c'est ceux qui ont que fait de l'académique. Donc, pour moi, il n'était pas question que je continue une maîtrise puis un doctorat. Donc, je suis allé travailler. Puis, en travaillant, c'est vraiment de fil en aiguille, en sautant d'une job à l'autre pour différentes raisons. Par exemple, je ne veux pas avoir de pagette, donc je ne veux plus être un third line en support réseau chez Bell. Là, je deviens développeur, un peu en sécurité. Après ça, on m'offre la chance de faire du malware research chez i7. Puis ensuite, on me dit, tu vas fonder le programme de recherche chez GoSecure. Fait que tout ça, c'est fait très organiquement, très naturellement. Mais le côté vraiment où j'ai commencé à considérer que je faisais de la recherche, c'est vraiment à partir du moment où j'étais chez i7. Puis là, tu sais, ce qu'il faut dire... de la recherche, la version Go, la sauce GoSecure de la recherche. Tu sais, il y a beaucoup d'endroits que c'est comme ça, mais il y en a que c'est pas comme ça. C'est important de faire la nuance entre les deux. Mais nous, on est dans le fond un outil de marketing. Tu sais, on va pas se leurrer, là. C'est triste à dire, puis il y a bien du monde qui vont avoir des frissons de dégoût en entendant ça. Mais c'est ça le mandat. c'est fais quelque chose de super hard cyber cool, mais parle-en le plus possible dans des conférences, dans des blogs, puis c'est là-dessus que tu es mesuré. C'est ça ton output, c'est ça ton utilité. Fait que souvent, le reste de la compagnie, les vrais gens qui défendent les vrais systèmes, qui défendent les clients, qui protègent les actifs informatiques, informationnels des compagnies, ils nous jugent parce qu'on est des outils de marketing. Là, tu sais. Mais il y en a qui nous aiment, mais il y en a qui nous jugent.
C'est un petit peu réducteur, là, ton truc.
Pardon?
C'est un petit peu réducteur parce que tu prends juste une perspective en considération, puis c'est la perspective business, genre d'une compagnie. Effectivement, pour une compagnie, on est des objets marketing. Mais pour moi, qui viens du milieu académique, je fais juste ma job de, de deepen scientific knowledge, là, de développer les connaissances scientifiques. Pour moi, dans mon cœur, c'est ça que je fais. Je fais pas du marketing. Mais,
non, je comprends.
Ça dépend de la perspective que tu fais. Là. Moi, dans le milieu, ce que je fais, c'est de la recherche.
Ouais. Moi, je rassure parce que j'ai le point de vue extérieur par rapport à vous deux. C'est ça qui est le fun dans ce cas-ci. C'est que vous admirez l'état de l'art. Puis ça, c'est intéressant. Donc, il demeure que ça rejoint ce qu'André a dit, c'est que vous admirez effectivement l'état de l'art. Mais effectivement, je connais le point de vue d'Olivier, puis je suis un gars du milieu aussi. Puis tu sais, moi, c'est ces gens-là qui flattent des chiffres. Ben, puis c'est pas mon univers. Puis c'est pour ça que j'aime ça, vous parler aux deux, parce qu'en plus, cette dualité-là qui permet justement de faire sortir. Puis c'est important, cette tension-là, en deux points de vue ou en deux approches, amène toujours du mieux. Puis c'est un peu ce que je déplore de l'académique pur, n'amène pas ce genre de choses-là. Mais quand tu l'amènes dans un contexte, fait que là, le fait de, oui, que vous êtes marketé, oui, effectivement, vous êtes une GoSecure est une compagnie à profit. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, dès lors, il faut que cette recherche-là soit rentable. Puis,
mais c'est mal nécessaire.
Mais l'autre point aussi, c'est que, tu sais, il n'y en a pas une tonne de compagnies qui ont un département de recherche là, qui fait que de la recherche. Fait qu'ils pourraient aussi ne pas faire ça. Tu sais, ils nous payent là, toujours bien. Là, comme ils investissent quand même dans la recherche, c'est ça que je veux dire. Fait que même s'ils s'en servent pour du marketing, ça, oui, c'est un point. Mais je pense que, tu sais, on doit leur donner que. Ils ont ça, ils contribuent au développement des connaissances scientifiques en faisant ça, contrairement à d'autres compagnies qui ne vont pas nécessairement investir là-dedans. Fait que, j'allais dire que c'est un mal pour un bien, mais je ne sais pas vraiment où le mal, en fait. Fait que ça va être du bien pour du bien pour du bien. C'est win-win-win.
Non, mais quand c'est mal, c'est que c'est pas utile. Quand c'est que des... Puis, ou quand c'est bâclé, tu sais, quand la conclusion de la recherche, c'est l'Internet est épeurant, acheter notre produit, tu sais, c'est...
Ah, mais il n'y a pas de bons chercheurs qui vont conclure ça.
Ben, OK, il y a OK.
Qu'est-ce qu'un bon chercheur?
Non, mais le chercheur average, je vais dire, le feu est pris sur Internet, puis c'est l'équipe de marketing, après, dans le blog, qui va rajouter en italique, acheter notre produit. Puis ça, on en voit plein, là, tu sais... Là, on va pas nommer de nom parce qu'on n'a pas bu, mais, mais on en voit, puis on est comme, tu sais, hey, sérieux, c'est pas cool.
Oui, puis c'est un peu pour ça que je vous amène à en parler, parce que c'est un des éléments que je déplore, parce que là, c'est complètement l'opposé, ça ne sert que la business. Ça ne sert pas l'état de l'art. Et vous arrivez vraiment à la bonne place, vous savez l'état de l'art, et incitamment la business parce qu'ils vous payent. Mais l'état de faire avancer la recherche et que vous présentez, parce que dans l'absolu, à part avoir les données brutes, puis moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est plus le résultat que vous présentez qui m'intéresse, parce que moi, ça m'amène à cette compréhension-là, à améliorer la compréhension des attaquants. Puis pour moi, ça c'est important. Ça améliore ma vie.
Mm-hmm. Mais ça, c'est une des parties vraiment importantes de la bonne recherche, c'est que le chercheur ne reste pas avec ses données dans son bureau. Le point important, c'est le partage de l'information, c'est la dissémination d'informations. Puis ça aussi, c'est une chose qui n'est pas donnée à tout le monde ou que ce n'est pas tout le monde qui a envie de faire ça. Fait que ça peut être une chose de vouloir faire des calculs, puis des stats, puis tout, mais après ça, il faut absolument que... Si tu n'aimes pas ça, il faut que tu sois partner avec quelqu'un qui aime ça parce qu'il faut que tu présentes, il faut que tu écrives les résultats, il faut que tu documente ça, sinon ça l'a servi absolument à rien. Fait que savoir écrire, savoir communiquer de toutes sortes de façons, savoir présenter, ça c'est un des points pour de la bonne recherche.
Ça, c'est une lacune réelle, encore actuelle, de la recherche en cybersécurité. Là, c'est pas vrai qu'il y a du open data comme les publications scientifiques du style de Nature. Là. Mm-hmm. Personne n'est capable de contre-vérifier ce qu'on dit. Là. Donc, on tend vers ça, nous. On fait de l'open source, on donne nos PowerPoints, nos blogs sont publics, il n'y a pas de paywall. Mais l'open data, on ne s'est pas rendu. Puis c'est parce que c'est compliqué. Puis avec la loi 25 puis GDPR, ça rend pas ça encore plus simple parce que là, ben premièrement, il y a des cochonneries dans nos données. Genre nous-mêmes, on est dans nos données quand on teste nos affaires. Fait qu'on pourrait genre potentiellement divulguer nos adresses IP de nos environnements de data center. À travers tout ça, no credentials. Disons que j'ai un stagiaire que par erreur, il s'authentifie sur un de nos honeypots, mais il utilise son mot de passe personnel parce qu'il est mêlé. Là, il a son mot de passe personnel en hash NTLM V2 dans nos données qu'on veut rendre public. Tu sais, c'est extrêmement dur de faire du open data en cyber, je trouve. Puis, ben, si on veut publier sur une étude sur la dureté des mots de passe ou des tentatives d'attaque, ben, à un moment donné, faut les mettre, les hashes, là, tu sais, faut, en tout cas. Ça, s'il y a des gens, là, qui nous écoutent, qui ont un avis là-dessus, tu sais, je sais que je pourrais, comme, hasher les IP, puis j'adore les conversations avec Philippe Artaud qu'on a là-dessus, parce que Philippe, c'est le king de la déanonymisation des données, puis presque toutes les schemes, comme, par exemple, GitHub, il faisait un hash MD5 des emails, des commits, puis il le mettait à l'envers. Puis selon eux, c'était assez pour anonymiser genre les données, puis tout allait direct dans BigQuery de Google. Mais une fois qu'on s'est rendu compte que c'était ça, on était capable de déanonymiser des millions de emails là, de GitHub. Fait que c'est dur de faire l'open data, le field est vraiment pas mature. Puis ben on reçoit pas d'argent en retour, tu sais. Si on était subventionné puis qu'on n'avait pas le choix de le faire, c'est une chose, mais là moi, c'est 100% du travail de plus et des risques pour un gain uniquement noble. Fait que c'est vraiment tough, mais c'est ça. T'sais, mon intervention, c'est juste pour dire on fait de notre mieux, mais on sait qu'on n'est pas parfait.
En attendant que les gens nous disent qu'est-ce qu'ils pensent là-dessus, puis reach out à toi pour le open source, là, j'aimerais quand même...
Open data, pas open source. Open source, on le fait déjà.
Open data. Ce que j'aimerais rajouter, en fait, c'est que là, t'es comme un petit peu tes œillères parce que t'es en cybersécurité depuis le début des temps. Mais j'ai eu la chance d'être dans d'autres domaines avant d'arriver en cybersécurité. Puis, par exemple, avant, je travaillais pour la police. Il n'y a pas de open data en police et ça n'empêche aucunement le développement de la recherche scientifique.
Mais ça empêche la contre-vérification des findings.
C'est sûr que moi, une chose que je suis habituée et qu'on ne voit pas beaucoup en cyber, bien, c'est la publication d'articles scientifiques. Puis quand tu publies un article scientifique dans des revues peer-reviewed avec des validations et tout, là, il y a ça. Tu fais signer le truc de confidentialité avec l'autre personne qui ne sait pas t'es qui puis qui ne sait pas. Non, non, puis, il peut reviewer tes data et tout ça. Puis ça se fait. T'sais. On le voit. Puis il y a quand même de la validation inter-chercheur tout le temps quand il y a des articles qui sortent.
Fait que ça, mon nom est sur 6 ou 7 articles scientifiques. J'ai jamais envoyé de CSV à personne.
Non?
Jamais.
Puis les revues...
Puis ils ont été peer-reviewed.
Puis c'était des bonnes revues.
C'était en cyber.
Bon. Là, je peux pas, j'ai pas encore assez d'expérience en publication en cyber pour vérifier.
Qu'est-ce qu'une bonne revue et comme qu'est-ce qu'un bon chercheur? Là, tu reviens avec ça. C'est quoi vos définitions? Parce que, tu sais, on se retourne à la base. André, tu l'as pas répondu. Qu'est-ce qu'un bon chercheur?
Ouais. Fait que moi, je donne ça de même. OK? J'ai pas de. C'est comme mon opinion de chercheur, mais. Fait que ça va être. Je vais tout nommer toutes mes qualités, là. Parce que je suis un bon chercheur.
Non, simplement.
C'est ça. Non, mais je pense qu'un bon chercheur, premièrement, va considérer l'éthique. Je vais genre te pitcher, puis après ça, on peut peut-être y aller plus creux pour ceux qui t'intéressent, là. Mais premièrement, ça va être un chercheur qui considère l'éthique autour de sa recherche. Après ça, il va avoir la méthodologie. Et là, on peut définir méthodologie versus méthode, mais moi, je parle de méthodologie. Je vois la face à Olivier qui est comme « je suis prête à te obstiner ». Ensuite de ça, les longues heures à auditer les données, à vérifier et revérifier les données. Puis, ben, l'autre point que j'ajouterais, mais que j'ai déjà parlé, que j'ai déjà mentionné tantôt, c'est le partage des informations, parce que sinon, ça donne rien. Fait que quand tu as ces quatre éléments-là, pour moi, ça, c'est de la bonne recherche. Donc, éthique, méthodologie, adaptée, vérification des données, puis partage des connaissances.
Considérant que Olivier avait un goût d'intervenir, je vais laisser son élan. Sur la méthodologie.
Ah non, non, ça c'est de la boîte, là, c'est plate. Là. C'est des détails de définition du dictionnaire.
Non, mais excuse-moi.
Mais, non, mais moi j'en reviendrai à. Je pense que ce que tu n'as pas mis dans ta liste, c'est la persévérance. Je pense que c'est ça le défi numéro un du chercheur, c'est de ne pas lâcher, de ne pas abandonner dans l'adversité. Tu sais, puis c'est. Ben moi, les stagiaires qu'on a, je leur dis tout le temps. En recherche, le travail commence quand tu n'as plus les réponses dans Google. Là, il faudrait que je rajoute à ma définition ChatGPT, bien sûr, parce que faut se moderniser. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Puis c'est là, souvent, la différence entre un bon stagiaire puis un mauvais stagiaire ou un bon employé, un mauvais employé, c'est l'abandon face au manque de solutions préfaites, tu sais. On est beaucoup des programmeurs Stack Overflow, là, aujourd'hui, là. On a oublié les bases, puis on fait juste comme prendre des petits bouts puis les chaîner ensemble pour régler le problème immédiat. Mais en recherche, tu sais, souvent, tu fais face à des impasses, tu sais, carrément, où il faut faire preuve d'originalité ou de t'as 4 millions, puis là, je dis 4, mais tu sais, dans le cas de la recherche de cet été, c'est 190 millions d'événements. Puis là, là-dedans, là, t'as toutes sortes de champs. Puis là, c'est quelles questions tu veux poser à tes données. Puis aussi, de jamais de voir de la valeur dans tout. Tu sais, faut pas douter. Puis là, faut comme pas perdre son temps. Faut comme réutiliser. Puis c'est pas tout à fait lié à la persévérance. Ça, c'est peut-être l'adaptabilité, comme Andréane disait. Mais tu sais, faut vraiment, à un moment donné, pas perdre de vue l'objectif, dans le fond. Fait que c'est un mélange de tout ça, je pense.
Notre dernière recherche, je trouve que c'est un excellent exemple de ce que tu décris là, parce que dans le fond, on a commencé, on avait, tu sais, ce que tu m'avais dit au départ, c'est, hey, on a des vidéos d'attaquants sur, tu sais, nos anépotes, puis moi, je suis là, oh my god, c'est hot. On va pouvoir définir, tu sais, puis faire des petits groupes d'attaquants. Là. Eh bien, en fait, ouais, c'est ça, décrire les attaquants, c'est ce qu'on a présenté dans les derniers mois. Mais avant de se rendre là, il y a eu un an de. Hey, attends un peu, il y a un monde à comprendre avant d'arriver là. Premièrement, comment ils ont compromis le système, tu sais, toute leur stratégie de brute forcing, puis les outils, puis de trucs comme ça. Tu sais, on a fini par voir qu'il y avait des trucs vraiment intéressants dans les données juste en lisant, relisant, en voyant un peu les outliers, les trucs comme ça, tu sais, les données aberrantes. Et puis, on a découvert, tu sais, on s'est mis à faire des calendriers d'attaque, à avoir des comportements humains derrière. Tu sais, là, ça aussi, il y a eu des présentations qui s'en sont suivies. Puis, ça a été vraiment pertinent aussi. Puis, tout ça, c'était sur le chemin avant d'atteindre notre ultime question de recherche, tu sais. Puis, c'était à ne pas ignorer. Donc, même si on est resté focus sur ça, mais c'est à pas ignorer les autres qui nous permettent de comprendre finalement la réponse finale ou la question dans toute son intégralité. Si on était allé trop vite à notre but aussi, ben il y aurait des affaires qu'on n'aurait pas compris. Puis des choses qu'on n'aurait pas documentées qui sont vraiment pertinentes.
Tu sais, puis si on peut clarifier aussi en y allant par opposition, tu sais, le profil d'un mauvais chercheur, ben, c'est quelqu'un qui lâcherait le morceau. Puis ça, j'en ai croisé là, des gens comme ça, mais qui lâche le morceau avant que tu aies fini le blog et le talk. Fait que la personne, elle a fait tout le bout de le fun, là, genre l'accumulation des données, tirer des conclusions, ta-ta-ta. Mais là, elle manque d'énergie ou elle réussit pas à vendre l'angle ou les trouvailles de façon convaincante à se faire accepter. Puis là, se faire accepter, là, je suis désolé, là, mais tout le monde se fait refuser de DEFCON. Là. Fait que tu ressoumets ailleurs, puis tu ressoumets ailleurs, puis tu ressoumets ailleurs, puis à un moment donné, tu vas passer. Là, moi, les gens qui soumettent qu'à DEFCON, puis qui sont comme « on ne me prend jamais », je suis entièrement contre ça. Mais donc, la personne qui va va trouver ça trop dur de faire justement l'échange scientifique, c'est-à-dire la publication ou la présentation, puis qui va passer à un autre sujet de recherche, puis qui va se dire qu'elle va revenir sur l'ancien, mais que finalement, ça n'arrivera jamais. Tu sais, ça, si vous avez moindrement tendance à faire ça, c'est clairement pas fait pour vous, parce que y a beaucoup, en pourcentage, il y a beaucoup de travail plate par rapport au travail le fun. Là. On est beaucoup dans Word comparé à en Python, là, ou dans Jupyter, qui est nos outils d'analyse de prédilection.
Mais plate, c'est assez relatif. Job plate, c'est assez relatif pour tout le monde. Il y en a qui vont dire « Ah ouais, mais moi, je préfère Word que Python. »
Oui, puis ça, non, je
rachèterais là-dessus. Tout le monde préfère Python à Word.
Mais ça, c'est quand j'explique à des gens normaux, c'est quoi ma job est plate là, pour les gens normaux. C'est pas le fun, ce que j'ai à faire, puis justement du Word, puis parler à des gens, les convaincre que c'est les bonnes choses. En ce sens-là, on est en marche, malgré tout, si on compare à l'ensemble de la société, mais si on se ramène à notre petit ensemble, qui est quand même notre univers, c'est pas tant plate que tous ces éléments-là, puis on a de tout là, dans notre univers de la cyber, là.
Mm-hmm. Ben oui, non, mais c'est un domaine extrêmement vaste, puis tout le monde peut se placer. Ouais. Puis moi, c'est ça que je trouve plate pour ceux qui veulent entrer dans le domaine, qu'ils ont de la misère à avoir des entrevues. C'est comme, hey, on fait tellement d'affaires différentes, là. L'entrevue te demande des trucs que tu ne feras plus jamais après, là, c'est dommage. J'aime donner des premières chances, justement, parce que à partir du moment où tu es passionné, tu vas réussir à t'aligner, tu vas être sur ton X à quelque part en cyber, c'est sûr, là. Tellement de choses. Mm.
Fait que ça, c'est un des éléments en recherche important aussi, c'est que faut que tu aimes faire plusieurs choses différentes parce qu'il y a une grosse partie, comme tu dis, de genre Word, de vendre ta salade parce que ça sert à rien si tu communiques pas tes résultats. Puis après ça, il y a une grosse partie en analyse, puis en code, puis en trucs comme ça. Puis tu sais, c'est tout le temps des grosses parties, des grosses étapes. Fait que faut un petit peu que tu sois multitalent là-dedans, là. Mais en même temps, c'est aussi l'envers de la qualité. L'envers du défaut, c'est la qualité que, ben, pour moi, c'est jamais plate parce que c'est vraiment différent. Chaque étape, même si j'y recommence tout le temps ces étapes-là, mettons, à chaque année, ben, sont quand même différentes, là, ultimement. Fait que, moi, j'ai du fun tout le long. Là. Je les aime toutes les étapes, mais c'est ça. Fait que c'est pas tout le monde qui aime toutes les étapes. Puis n'importe quelle étape, n'importe quel travail que tu fais, quand ça fait 3 mois que tu es là-dessus, à un moment donné, c'est sûr, c'est long pour tout le monde, mais là, la persévérance, elle va rentrer en jeu, comme tu nommais tantôt, Olivier. Mais sinon, si je reviens à un autre point important de la bonne recherche, ça va être l'éthique, parce que je pense que c'est important d'en parler. C'est important de se questionner sur l'éthique en recherche. Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a des personnes à qui on fait du mal sans le savoir ou sans le vouloir? Ça se peut très bien. Puis si je fais des parallèles avec la cyber, là, ce qui différencie d'un white hat d'un gray hat versus black hat, là, on comprend que c'est un continuum. Là. Mais white hat, gray hat, là, la ligne, elle peut être mince. Là, fait que des fois, il faut que tu te demandes si tu contribues plus, est-ce que c'est plus bénéfique que les coûts que ça va apporter? Il y a des pentesters là, qui font ça tous les jours, là, qui vont rencontrer une vulnérabilité puis qui vont se questionner à savoir est-ce que je la soumets pour qu'elle soit réglée ou est-ce que j'annonce à tout le monde que leur système, s'ils utilisent ce système-là, ça se peut qu'ils soient vulnérables. T'sais. C'est une question qu'ils vont se poser à tous les jours. Ben, c'est un petit peu...
Puis je vais faire un peu de pouce là-dessus. Puis là, je vais parler un peu de droit criminel essentiellement. Là, mais puis c'est un problème des gens en TI cyber, c'est qu'on est très mécanique. On ne prend pas compte qu'il y a l'humain dans tout ça. Puis c'est un de votre recherche, ça très chouette parce que vous abordez le volet humain. Et justement, qui est derrière le clavier? Et c'est quoi l'intention? C'est parce que là, je suis arrivé avec le droit criminel, c'est parce que t'as l'acte criminel, l'actus reus, et tu as l'intention, mens rea, qui sont les deux éléments nécessaires à la concrétisation d'un acte criminel selon nos lois. Donc, quand que j'analyse les choses, puis j'ai commencé récemment, puis je dois probablement donner le crédit là-dessus, quand je regarde un attaquant, quand que je suis en gestion d'incident, là, je cherche c'est quoi sa motivation, c'est quoi son intention. Et ça vient moduler énormément mon regard sur les choses qui, si je me limitais souvent au strictement technologique, c'est tel que tel, Mais vous amenez cet élément-là que je trouvais intéressant, cette chose. Puis donc, l'éthique est nécessairement associée à ça. Puis c'est pour ça que le lien se fait. C'est que vous devez savoir qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur les humains. Qu'est-ce qui va être l'état de votre recherche et où vous allez avec ces éléments-là. Parce que on n'est pas dans un état neutre. On est comme en quantique. Tu le regardes, ça change l'état du quantique. Juste le regarder. Donc, le fait de faire de la recherche, puis vous avez probablement vu commencer à avoir des effets aussi. Là, mais bref, c'est ma petite parenthèse sur ce que tu vas lancer en éthique.
Ouais, ben ouais, non, c'est, puis tu sais, ça concerne plusieurs aspects là, l'éthique là, tu sais, c'est au départ juste ma recherche, est-ce éthique, tu sais, est-ce que elle va faire du bien plus que de mal, puis tu sais, des fois on est beaucoup plus éthique aujourd'hui qu'on l'a été dans les recherches scientifiques de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. On peut en repenser plusieurs qui étaient hautement non éthiques malgré le fait que ça nous a apporté beaucoup d'informations.
Mais on se fait questionner sur l'éthique beaucoup, Andréane, hein? Tu t'en souviens, là?
Questionner, tu veux dire les gens sont curieux à savoir.
Non, il y en a pour qui trouvent que c'est pas éthique ce qu'on fait.
Ouais, ben c'est sûr que il y a plusieurs aspects à l'éthique, puis il y a plusieurs aspects à considérer.
Je serais curieux de savoir si ça passerait en comité d'éthique universitaire.
Moi aussi, puis j'ai le goût de l'essayer aussi.
Ben ouais.
Mais tu sais. Je veux dire, je communique beaucoup avec des professeurs de l'université, puis on parle toujours de comme l'éthique autour de ça. Ça m'arrive vraiment souvent d'avoir ce genre de conversation-là. Et tu sais, pour la plupart des professeurs que je côtoie, nos recherches sont éthiques.
Mais c'est quoi le questionnement éthique, là, justement? Là, tu fais juste nous tenter un peu avec nous dire, ouais, on a été critiqués, mais c'est quels sont les arguments qui sont émis pour dire que ce n'est pas éthique?
Ouais, Olivier, t'as-tu des exemples que
ben
tu
oui, mentionnes? Concrètement, on donne accès à des systèmes entiers sur le cloud, haute connectivité, à des adversaires. Puis, on take down uniquement quand on a des abuse complaints.
OK, mais on a un système qui permet de déploguer à tout moment le truc là, qui va déconnecter l'attaquant immédiatement. T'sais. Si on n'avait pas ce système-là et qu'on avait de la misère à les kicker out, je comprends que ça serait très problématique. Mais là, pour moi, il y a une balance coût-bénéfice quand même assez
clair. Mais on attend qu'il y ait une plainte.
On pourrait s'améliorer sur ce côté-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est en place et que dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on tire la plug. Après ça, il y a aussi... Ben, moi, c'est pas... Comme la première chose éthique que je vois et que j'ai entendue, mettons, l'aspect qui pourrait être critiqué, c'est que, tu sais, on filme ce que les attaquants font. Pour la plupart des gens, pour monsieur, madame, tout le monde, on s'en fout, c'est des méchants. Mais, tu sais, techniquement, ben, tu sais, on filme des gens. On les filme pas, eux, à leur caméra. Là,
on active
leur
caméra la webcam, ça serait
on
malade.
On aurait dit que ça sonnait de même, mais je veux dire, on filme l'écran, qu'est-ce qui se passe sur l'écran?
Ça serait...
Ouais, c'est... non, là, on va pas se poser cette question. Mais c'est ça, tu sais. Mais pour en contrebalancer, en balancer avec ça, en contrepartie, on a ce message-là d'alerte quand ils rentrent dans le système qui est écrit « Vous avez absolument pas le droit d'être là » puis « Vous êtes monitoré aux plus grandes capacités du monitoring. »
On a mis un « Message of the Day » banner, là, tu sais, classique dans Windows. J'ai oublié le nom dans Windows. Mais un MOTD qui dit que vous êtes monitored au full extent du RDP protocol. Fait que nous, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Puis,
c'est ça.
Unauthorized access aussi. Fait qu'un classique, tu sais, que tout le monde met sur leur switch, puis leur firewall, puis leur système depuis des temps immémoriaux. Depuis le CFAA, en fait. Donc,
puis,
on a ça.
Les attaquants le voient et doivent cliquer OK pour continuer, là, puis tu sais, faire ça. Donc, t'sais, pour moi, ça, c'est suffisant pour leur avertir qu'ils sont filmés. T'sais. Peut-être qu'ils ne savent pas à quel point, mais...
Mais moi, j'ai pas de problème éthique avec les adversaires. T'sais, ils n'ont pas d'affaires là, puis c'est clair. Là.
Mm-hmm.
T'sais, ça, je trouve pas que c'est un gros enjeu. Là.
Mais c'est des questions quand même qui se posent. Les questions doivent se poser. Ils doivent se répondre également. Puis là, je vois les réponses qui sont données, puis c'est intéressant. Puis c'est ça aussi, ces questions-là, vous êtes confrontés avec ça constamment. Puis là, tu parlais les 4 ou 5 points, dépendant si on pense persévérance comme étant une qualité d'un chercheur. Mais c'est constant, ces questions-là, ces préoccupations-là. Puis là, Olivier soulevait, oui, mais on attend le message du abuse. C'est effectivement, c'est peut-être insuffisant pour votre lecture des choses, mais légalement, probablement pas. Là. Encore là, ouais. Le légal et l'éthique, c'est deux choses. C'est pas tout à fait aligné.
Oui, c'est ça. Puis l'autre chose éthique qu'on peut considérer à pas mal toutes les fois qu'on regarde des captures d'écran, il y a, tu sais, les adversaires vont se connecter à leur compte personnel, des fois. Ils vont se connecter à leur Telegram, ils vont se connecter à leur courriel, on a tout, ils vont se connecter à leur wallet de crypto-monnaie, tu sais. Toutes ces infos-là, on les a. Est-ce qu'on les utilise? Absolument pas, parce que pour moi, ça, c'est passer l'éthique, là. C'est non éthique pour moi, parce que j'ai pas d'affaires avec ces informations-là. Pour moi, c'est du ressort de la police, tu sais. Donc, je les utilise pas. Après ça, t'sais, quelqu'un d'autre ferait comme « mais c'est merveilleux, on va commencer à enquêter, on va se connecter à leur compte, puis tout ça. Puis je comprendrais l'excitement, l'excitation, je veux dire. »
Ouais, mais tu sais, des fois, faire la danse de la pluie, parce que la danse de la pluie, parce que t'as réussi à trouver le graal, t'es content, ça, je peux comprendre, puis avoir fait des pen tests, puis des fois, t'es trop content, puis tu brûles ton in parce que t'étais trop content, là. Fait que ça arrive, là. C'est quand t'es un peu inexpérimenté. Mais dans ce contexte-là, puis là, je voulais voir, parce que normalement, ce qui guide vos choix, dans le fond, d'avoir, c'est parce que vous avez l'information sur les comptes personnels, c'est votre protocole de recherche, c'est l'objectif, parce que si c'est ça qui est votre guide ultime, j'imagine, dans la façon que vous abordez ça. Pas peut-être coup de coup, vous découvrez les comptes personnels, puis là, vous partez, mais si c'est pas dans le protocole de recherche, normalement, c'est là où un bon et un moins bon chercheur doit se différencier aussi.
Oui, parce que c'est vraiment tentant là, de prendre les infos, t'es là d'en face. Là, puis c'est drôle, puis c'est des méchants, puis c'est des. Mais on le fait pas. Fait que. Parce qu'effectivement, on est guidé par nos objectifs de recherche plus importants que ce petit monsieur-là qui consulte ses courriels personnels. Ouais. Sinon, est-ce que je peux passer à mon deuxième point? Est-ce que vous me le permettez? Okay.
Lui est très réflectif, on peut passer, je pense,
ouais,
au deuxième point.
Oui, c'est ça, il est comme, ça le fait réfléchir. Mais deuxième point.
C'était
mais
comme
j'ai...
deuxième, mon Dieu, on n'est pas sorti.
Ah non, mais on les a toutes nommées. On a nommé, je sais pas pourquoi, j'ai une ordre dans ma tête, tu sais, l'éthique, parce que c'est ce que tu réfléchis en premier, après ça, tu sais, méthodologie. Moi, je vais en étapes, je suis très pragmatique. Fait que la méthodologie de recherche. Puis là, je disais, je pense que c'était quand même important de définir méthodologie versus méthode. Parce que la méthode, c'est les techniques que tu vas utiliser ou les outils que tu vas utiliser pour collecter tes données ou analyser tes données. Mais la méthodologie est encore plus importante en recherche. C'est ton espèce de cadre dans lequel tu vas agir. Ça va contenir la rigueur de la recherche, la crédibilité, la validité, la fiabilité, tu sais, est-ce que ta méthode peut être reproduite par quelqu'un d'autre ou tu sais, t'as changé deux trois affaires pour que ça fitte, mais quelqu'un d'autre qui va réutiliser les mêmes données arriverait jamais à la même conclusion à cause de ces changements là, tu sais, ça c'est grave là, tu sais, tu peux pas altérer les données, tu peux travailler longtemps sur tes données pour les mettre d'une certaine façon, ça y a pas de problème, mais tu peux pas venir changer deux trois petits points, tu sais, pour que ça fitte mieux ou que ça soit plus facile, tu sais, tu peux pas. C'est ça, tu ne peux pas changer les données.
Donc, le fait des les données aberrantes, d'ailleurs, aussi, sont un élément qui doit être tenu en compte. Certains, je pense, en recherche conventionnelle, justement, il y a des recherches qui ont été critiquées, justement, parce que les chercheurs ont retiré les données aberrantes, ce qui a retiré la valeur ultime de la recherche, parce que dans certains cas, ces données-là ont une importance très importante. Une importance très importante. C'est très important, ce genre de choses-là. C'est le top. Mais justement, ça vient... diminuer la valeur de la recherche parce que ces données aberrantes-là arrivent à d'autres conclusions et d'autres façons de...
Pas si t'es capable de le documenter.
Oui,
c'est
une bonne raison.
À chaque fois que tu altères tes données brutes, il faut que tu te dises « j'ai enlevé ça à cause de cette raison-là ». Là, la personne qui voit ça plus tard peut dire « je suis pas d'accord avec le pourquoi ». Mais elle a la trace. Tandis que si tu fais juste l'enlever puis foncer, ben là, t'es malhonnête. T'sais.
C'est ça.
Tu sais, je pense que c'est. En pharmaceutique, là, les tests là, de médicaments, tout ça, là, si tu te trompes dans un carnet, mettons, il faut que tu biffes de façon à ce que le chiffre antérieur soit encore visible, puis il faut que tu mettes tes autographes. Tu sais, il y a un procédure pour pas que tu aies l'air de détruire des données, de cacher des erreurs. Tu sais, je pense que c'est la même chose qu'il faut avoir dans n'importe quelle recherche. Il faut une transparence. Puis ça, ça, ça prend du temps. Ça, c'est pénible. Souvent, là, tu te dis, hey,
ça change
on garoche ça en dessous du tapis, personne ne va s'en rendre compte. All right.
Ah, c'est
souvent, souvent, c'est de notre faute. Souvent, c'est ah ouais, mais là, il y avait un bug ou ah, les logs, il y avait. Par exemple, tu sais, là, cette recherche-là, elle a 3 ans, 190 millions d'événements. À travers 3 ans, là, on a changé la façon qu'on loguait certaines variables. Un moment donné, c'est client underscore IP, un moment donné, c'est source-IP, puis un moment donné, c'est client IP avec un I majuscule tout collé. Comment que je fais pour concilier tout ça puis faire une picture cohérente avec, tu sais, mettons, un enrichment en GeoIP? Il faut. Si tu dis, hey, là, source-IP, là, on a fait ça pendant 2 semaines, on s'est rendu compte de ça, on a backé out le changement, on s'en crisse de ces données-là. Excusez-le, je viens d'étiqueter l'épisode comme.
Oui, il va être explicite.
Pardon. Non, mais pour nous, ce n'est pas significatif. Dans la. Tu sais, c'est moins de 1% des événements. Puis, il n'y a pas de lien direct, il n'y a pas d'impact direct avec les conclusions qu'on veut aller chercher. Mais ça, si on le fait, puis je pense qu'on l'a fait une fois, puis c'était pas tout à fait cet exemple-là. Mais premièrement, les chercheurs, on s'est parlé. Il n'y a pas de cachotterie. On se le dit, puis on l'écrit. T'sais, on l'a documenté. Ça, on a retiré ces données-là pour nous simplifier la vie parce qu'il n'y a pas d'impact à cause de X, Y, Z.
Ça nécessite des tests aussi. Genre, est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'impact? Fait que là, il a fallu...
On reroule les analyses.
Rerouler tout, puis le voir et documenter qu'il n'y a pas d'impact, puis le faire. C'est bon, on peut procéder. Donc oui, c'est plus complexe que ça en a l'air. Mais sinon, la méthode...
Surtout plate.
Oui, ça, c'est le bout de...
Data cleanup, là,
important.
C'est plate.
Important. Et il y a une chose que j'ai remarqué en cybersécurité, mais tu sais, c'est vraiment pas le seul domaine affligé par ça, mais ça m'arrive quand même souvent d'assister à des conférences sur des résultats de recherche que, à la fin, ma conclusion, c'est ils n'ont pas utilisé la bonne méthode pour répondre à leurs questions de recherche. T'sais. Puis ça, là, ça fait partie de la méthodologie. T'sais, ça fait partie des questions que tu es censé être posées bien avant d'être rendu sur la scène en train de communiquer les résultats. Ça, je trouve que c'est important de...
Est-ce que tu peux donner un exemple?
On veut un exemple. On veut des noms. Ouais.
Ben, pas des noms, mais au moins un exemple. Je ne vais pas mettre quelqu'un sur la place publique, mais même moi-même, probablement que ça m'était arrivé d'arriver avec une mauvaise approche. Puis quand j'arrive à le communiquer, ben, effectivement, j'ai peut-être vicié ce que... Ma mini-recherche, parce que je ne fais pas des grosses recherches.
Oui, bien, je peux donner un exemple genre vraiment comme grossier, là, juste pour comprendre l'idée. Là. Mais, tu sais, mettons les deux grandes branches en recherche, ça va être le qualitatif puis le quantitatif. Est-ce que c'est juste des stats que tu fais ou c'est vraiment la compréhension de genre l'humain ou de l'expérience humaine ou de peu importe? C'est pas obligé d'être humain, là, ça peut être le système, là, comment il fonctionne et tout. Mais il va y avoir ces deux approches-là. Et tu peux aussi adopter l'approche mixte. OK, il n'y a pas de problème avec ça. Mais les deux grandes bases, c'est quali et quanti. Puis, un exemple de question de recherche, mettons quanti, ça serait combien il y a de gens qui utilisent un antivirus, des antivirus en général, okay, mettons. Combien de gens? Fait que combien de gens, ça veut dire qu'il faut que tu calcules, que tu additionnes les gens, puis on comprend là, comment il faut faire le calcul. Mais si ta question, c'est plus comment les gens ils se sentent dans leur expérience d'utilisation d'antivirus, est-ce qu'ils se sentent plus protégés? Est-ce que là, je dis n'importe quoi, là, j'avais pas d'exemple, fait que je vous fiche ça. Mais ça, c'est une approche qualitative, puis tu pourras pas le calculer en faisant 1 plus 1 plus 1. Il va falloir que tu ailles poser des questions aux bonnes personnes, tu sais. Puis poser des questions à des gens qui ont des antivirus, pas des gens qui en ont pas ou qui en vendent. C'est comme... C'est vraiment important de faire la différence, d'avoir la bonne approche à ta question. Ou sinon, t'as pas la bonne question, peut-être. T'sais. Ça dépend de comme... Faut que t'ailles chercher tes données en fonction de ta question. Ou si t'as des données, pose les bonnes questions qui fit avec toi.
Moi, ce que j'avais vu, mais là, je suis vraiment dans un autre registre, c'est le biais de confirmation qu'on voit souvent en cyber. C'est qu'on a une idée, puis on fait tout ce qui est dans notre possible pour la confirmer.
Ouais.
Puis ça, je le vois très souvent, puis c'est très dangereux en termes de recherche, si on veut, ou en termes d'analyse, parce que on regarde pas le vrai, on fait de l'aveuglement volontaire essentiellement. Là.
Ouais. L'objectivité, c'est une des parties qui va rentrer aussi dans la méthodologie. Là. Il y a une grosse partie de la méthode là, qui est aussi de OK, qu'est-ce qui a été fait sur ce sujet-là avant que moi j'arrive avec mes idées et tout ça? Puis tu essaies de voir les deux côtés aussi, là, ceux qui ont réfuté ça, puis ceux qui sont allés en fonction de cette réponse-là. Fait que tu vois les deux côtés. Tu regardes la qualité des recherches aussi qui a été faite, puis c'est combien, comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir ces infos-là. Parce que des fois, c'est ça un peu le problème, c'est que ben, tu n'avais peut-être pas la bonne approche, donc ça n'a pas répondu tout à fait à ces questions-là. Fait que de faire là, l'espèce de recension des écrits par rapport à ça avant que toi tu commences, c'est vraiment important. Ça fait partie de la rigueur de la recherche puis de la méthodologie autour de ta recherche. Fait que oui. Puis là, ça t'aide aussi à un petit peu rester plus objectif là, parce que tu te montres critique des deux côtés. Là. Qu'est-ce que eux ont fait de bien? Qu'est-ce qui peut être amélioré et tout? Fait que tu peux te poser les mêmes questions pour ta recherche à toi aussi. C'est important. Puis il faut être conscient de ses limites parce que toutes les recherches ont des limites. Ils ne peuvent pas répondre à toutes, de toutes les perspectives, de tout. Tu sais, tu as tout le temps, tu travailles avec des échantillons. C'est rare que tu travailles avec des populations complètes. Tu as comme un échantillon de 3 mois d'attaque. Ouais, mais peut-être que c'était différent les 3 mois qui ont suivi. Tu sais, mais ça, il faut que tu sois conscient de ça, puis tu le documentes, puis tu le dises, puis tu en parles des limites de ta recherche. Elles sont importantes. C'est des biais, ça. T'sais. Fait que.
T'es, on n'est pas de son dans le cloud, tu te fais attaquer juste par du monde qui attaque le cloud.
Exact, c'est
ça. Plein de nuances comme ça.
Ouais, exact. Fait que là, si tu lis une recherche qui n'ont pas les mêmes conclusions que toi, mais c'est important d'aller voir, ben, eux, ils étaient-tu dans le cloud, eux, ils étaient-tu NLA, eux, ils étaient-tu, tu sais. Il y a plein d'affaires à
lire. Souvent, quand on est bien fâché par rapport à des publications qui n'ont pas les mêmes résultats que nous, c'est ça. C'est dans les nuances que ça se joue, là, tu sais.
C'est ça. Exact. Fait que là, on peut dire, ah ben, on a fait mieux que ça, on a fait mieux, mettons, que eux pour cet aspect-là. Mais tu sais, chaque recherche va avoir répondu quand même à une partie de la question.
Ouais, ça, c'est ça. Une dose d'humilité, parce que, un, vous êtes critiqué et vous vous améliorez. Fait que tous ces éléments-là sont quand même très importants. Là. L'humilité, ça ne peut pas être juste comme une star puis être incritiquable, parce que c'est pas ça de la recherche.
Non. C'est ça. T'sais, mes années là, à l'université, c'était que ça. Là. Tu présentes ton projet, puis l'objectif de la rencontre, c'est genre d'amener tout ce qui ne marche pas avec ta recherche, ou tout ce qui t'as pas considéré. Puis à un moment donné, après chaque examen doctoral, là, t'en as 3 en tout. Là. Après chacun, là, tu files pas gros dans tes culottes, là, tu retournes chez toi, puis là, tu regardes toutes les rushes que tu as reçues, puis tu dis, bon, celui-là, elle m'appartient pas. Là, t'sais, c'est dans ton dans tes œillères à toi là, ça m'appartient pas, celle-là oui je vais la prendre, je vais améliorer ça, tu sais. Fait que c'est ouais, beaucoup d'humilité en recherche, c'est clair, c'est quotidien. Puis
oui, je laisse continuer, c'est bon.
Puis l'autre puis sinon ouais, l'autre point important que j'ai nommé tantôt, puis juste pour finir mon in deep du sujet ou des points que je voulais dire, c'est la partie vérification des données là, qui est vraiment longue. Puis là, j'allais dire plate, mais la vérité, c'est que moi, je trouve ça quand même fun. Mais genre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça plate. Mais, tu sais, vérifier, faire des tests, utiliser plusieurs outils différents pour tester, pour voir si t'as la même, tu sais, si t'arrives au même résultat, c'est vraiment du gossage. Là. Puis ça peut durer longtemps. Là. J'ai fait ça pour notre recherche, peut-être 5-6 mois, là, que juste de gosser dans. Tu sais, c'est ça qui nous a permis de découvrir plein d'affaires pour les calendriers d'attaque aussi, mais il y a eu du gauchage. Tu sais, d'observer c'était quoi les limites, ils vont un petit peu commencer à rentrer ici, là, parce que tu vois comme que tu n'es pas capable de calculer ou tu sais. Fait que tu le prends en considération. Mais c'est tout le temps, tu sais, une étape à la fois, tu inspectes les données, tu réinspectes les données. Tu sais, faut finalement auditer nous-mêmes nos données, parce que c'est sûr qu'on n'a pas un deuxième groupe de chercheurs qui vient checker. Mais sinon, faut vérifier et revérifier. Puis si tu ne trouves pas de limite à ta base de données, c'est que ta recherche est probablement pas mature ou ton approche n'est peut-être pas assez mature pour de la recherche scientifique. Ça, c'est sûr qu'il y en a.
Mais ça veut dire quoi, ça, des limites? C'est-à-dire, là, tu as dit que tu n'es pas capable d'avoir un niveau de précision, tu devrais avoir ça.
Ouais, ça peut être un niveau de précision, ça peut être, je suis pas capable de répondre à, la question, j'ai comme pas d'exemple qui me vient en tête, mais tu sais, mettons, je suis capable de répondre à cette question-là, mais pas à celle-là avec les données que j'ai, tu sais, puis ça revient à tantôt mes billets ou mes limites. On va en trouver une de notre recherche, c'est quoi une des limites?
Non, mais mettons, l'hypothèse. Tous les attaquants opportunistes qui scannent Internet pour du RDP sont pas sophistiqués.
Ouais.
On n'est pas capable de confirmer cette hypothèse-là.
Parce qu'on les a pas tous vus?
Ben, non, mais peut-être qu'on en a une grande partie, mais la sophistication, c'est pas un ou zéro, c'est un axe. Puis, tu sais, là, quand on voit du monde living off the land, on dit « Oh, ils sont sophistiqués », mais en même temps, OK, mais rendu de l'autre bord, ça reste qu'ils font du brute force scanning. Ouais. Là, moi, j'ai envie de les changer de bucket.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, c'est.
Ouais.
La sophistication, c'est n'importe quoi. Là. C'est le monde qui veut juste dire ça tout le temps pour tout le monde. Puis en même temps, s'il y a des gens du Five Eyes qui écoutent, ben je sais que vous envoyez des gens sophistiqués. Là. Ça donne du funding.
Oui, ben, ça, c'est du funding. Mais même encore là, bon, on revient à la définition de qu'est-ce que sophistiqué. Puis ça, ça me rappelle le podcast du CQ. C'est quoi la définition? Ça veut dire quoi? Si on ne s'entend pas sur la définition, on peut dire tout et n'importe quoi sur sophistication sans qu'on puisse conclure que tout le monde a raison ou tout le monde a tort.
Ouais.
Puis on va nulle part. Si on a, surtout pour de la recherche, si tout le monde a raison, tout le monde a tort, on s'en va nulle part. Là. C'est pas utile. Là.
Ouais, ben des fois c'est plus facile d'y aller à l'envers là. C'est quoi qui est pas sophistiqué? Puis ça, je te dis, c'est assez clair quand tu vois son écran. Puis tu sais, avec l'exemple que tu donnais avant qu'on commence à enregistrer là, tu sais, la personne elle rentre dans le système puis elle fait plein de bruit. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, ça c'est pas de la sophistication là. T'es mêlé là. T'es pas en train de faire une bonne job de hacker. Fait que c'est.
Sauf si c'est de l'attribution pour un tiers, tu sais. Ouais, on sait jamais.
Tester.
C'est quoi?
Ou qui veut tester le système, puis lui, il veut juste trouver des systèmes qui répondent pas.
C'est ça, puis c'est là, puis là, j'ai quand même un peu parlé de votre future recherche. C'est là où vous allez glisser sur, pas juste sur l'accès initial, mais ce qui suit. Puis pour moi, c'est intéressant parce que en tant que répondeur aux incidents, traduction libre, je le vois pas, je suis pas capable de conclure. Je vais tirer une conclusion d'intention. Mais celle-ci, elle est remplie de mes billets puis de mes affaires. Fait que dans le cas là, que je mentionnais avant qu'on commence à enregistrer, ben moi, j'ai trouvé Coco. Il a fait beaucoup d'efforts pour son accès initial, puis il a vraiment fait beaucoup d'efforts. Puis il arrive, quand il l'a eu, il a pissé dessus. Je vais là, c'est mais pourquoi t'as gâché? T'as investi ou ça lui a coûté parce que soit il l'a sous-traité ou s'il l'a fait lui-même, t'as investi des heures. Ça a pris des heures à l'exécution de l'accès initial. Puis en l'espace de 15 minutes, tu l'as brûlé. Fait que là, j'ai comme. Pour moi, ça compute pas, mais c'est basé sur mes biais, c'est basé sur. Puis il n'y a pas de recherche, il n'y a rien là-dessus. C'est là où j'ai hâte de voir quand on va avoir des échantillons plus intéressants. En tout cas, bref. Ce qui va suivre.
On va répondre à ta question l'année prochaine, 2024.
Merci. Oui, mais c'est ça. En tout cas, pour revenir à ce que tu disais justement sur vérifier ces éléments-là, justement, ces genres de conclusions, on parle de sophistication, ben oui, il faut trouver des paramètres pour définir ces hypothèses-là que vous émettez. Puis de toute façon, on n'en a pas parlé, mais c'est constamment mettre des hypothèses que vous faites, là, puis des vérifier ou des détruire parce que celles-ci sont invalides, parce que c'est une fausse intuition, une mauvaise intuition.
Oui, ou on n'a pas le temps de les tester. Malheureusement.
Puis être fâché après du code Python.
Ouais.
Ouais. De la recherche.
Il faut investir beaucoup de temps à être fâché.
Ouais, ben clairement, ça a l'air de le karma Olivier, là, parce que, là, il répète souvent qu'il est fâché. Là, fait que j'ai l'impression que tu as un peu de malheur à exprimer à travers ça. Tu te fâches contre Python régulièrement?
Non, mais tu sais, à un moment donné, tu te dis. Je sais ce que je veux faire. J'aimerais ça juste fermer les yeux puis que l'ordinateur fasse exécute ma vision. Tu sais. Malheureusement, l'interface entre moi puis ça, c'est du code. Puis je trouve ça de plus en plus. Je trouve qu'en vieillissant, la programmation de plus en plus difficile. Les paradigmes async.io, j'ai pas grandi là-dedans. Puis je maintiens un gros code base async.io. Puis ouais, je trouve ça bien dur. Bien dur. Là aujourd'hui, cette semaine, dans la dernière semaine, là, notre environnement d'analyse, c'est un Jupyter Hub. Puis là, là, ils ont fait un major release, puis ils ont tout pété le backward compatibility, tu sais, d'une affaire qui marchait depuis 3 ans avec un minimum d'entretien. Puis là, c'est comme, mais pourquoi, là, genre, tu sais, là, moi, ça va me prendre des heures à remonter tout ça. Puis... Fait que, bref, je maintiens un... On est full stack, hein? On n'a pas d'administrateur système dédié. Là. Fait que je maintiens tout notre RDP, le cloud orchestration et les message queues et l'analyse dans l'environnement d'analyse, Elastic Kibana, Jupyter Hub. Fait que c'est ça. Souvent, je suis juste en réaction à des bugs, puis je fais des longs soupirs, puis je règle les bugs. Mais je suis pas fâché. Je retire ce que j'ai dit. Je suis pas fâché. Je suis enthousiaste. Des nouveaux bugs.
Ouais, ça crée une certaine zone de frustration là, pour le comprendre. Puis, sans faire de AsyncIO, j'ai fait du support série il y a quelques années. Puis j'ai juste eu le goût de m'ouvrir les veines après avoir travaillé avec ça. Là. Ça ben, bref, mon petit malheur de développeur. Là. Bon, retournons à recherche. À travers, on a parlé de Python et des affaires. Là, tu étais on est parti partout. Là, la dernière fois, j'ai pas réussi à faire mieux que la dernière fois, là, peut-être en moins longtemps. Est-ce qu'il y avait des éléments qu'on n'a pas couverts que sur les 4 points que tu avais mentionnés? Parce qu'on a quand même été de travers un peu à travers tout ceci. Là, juste pour être sûr qu'on n'a pas échappé.
Oui, ben non. Moi, je pense que j'ai tout. On est allé en détail dans chacun, là, t'sais, en l'éthique, en vérification, en méthodologie, vérification des données, puis partage des connaissances. On a tout abordé ces sujets-là, puis c'était pour moi les 4 points importants. Puis à travers ça, ben, on en a rajouté une couple, mais,
ben,
mais l'essentiel
bien,
hein? est là.
Olivier, toi?
À
part crier après les nuages.
Non, mais la question, il y a une affaire que je veux dire pour aider les gens à s'auto-diagnostiquer, suis-je chercheur ou non? Je vais en parler tout de suite, puis après ça, ben, si tu as d'autres questions, tu continueras. Mais si vous êtes quelqu'un qui participe à des CTF, moi, j'organise arguably le plus gros CTF en personne au monde. Puis, j'aime beaucoup ça. Moi, c'est vraiment le un des trucs qui me passionne le plus ou qui a le plus confirmé que je suis en cybersécurité, c'est les CTF. Puis, pour savoir si c'est un chercheur, là, puis là, ça, c'est la théorie du CTF playing que Laurent Desauniers et moi, on évangélise depuis une décennie maintenant. Il y a comme plusieurs types de joueurs, mais il y a 2 joueurs qui sont carrément en opposition. Pis c'est le grinder puis le butineur. Okay? Les noms sont assez explicatifs là. Fait que le butineur, lui, va avoir touché à tous les challenges, puis va avoir comme essayé un peu, puis si c'est facile, il va faire des points même, tu sais, le butineur. Puis le grinder, c'est l'opposé là. C'est un binaire ARM 64 en architecture mixed Indian custom, puis tu le vois à prime abord que tu n'as aucune chance de réussir parce qu'il reste 12 heures au CTF, mais c'est pas grave, tu vas te lancer là-dedans, ouvrir les guides, puis tu vas te casser la tête. Puis tu sais, là, vous voyez où je m'en vais avec ça, là. Tu sais, la recherche, c'est clairement, si vous êtes du type grinder en CTF, vous avez, à mon avis, vous avez plus de chances de réussir en recherche en cybersécurité, c'est ça qui vous intéresse, que si justement, quand vous arrivez, puis qu'il y a un but, parce que c'est ça la recherche, c'est un buffet d'options, c'est toi qui décides de quoi tu parles, c'est toi qui émets tes propres hypothèses. Là. Moi, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais à job, il n'y a personne qui nous dit « fais ça », c'est nous autres qui décident. Puis, donc, c'est épeurant, là. Fait que si devant le buffet, ben tu butines puis tu vas pas jusqu'au fond, tu n'auras pas les résultats que tu veux en recherche, puis tu vas peut-être perdre le support de ton organisation. Fait que c'est, à mon avis, un test, c'est en CTF, es-tu capable de driller jusqu'à fond? Si oui, ah, ben tu peux considérer la recherche comme.
Il n'y a pas un peu une partie butinage au début d'une recherche? On est quand même. Ben, puis là, je parle juste de mon expérience, là, mais tu sais, mettons, moi, dans les CTF, je connais pas grand-chose non plus, tu sais, c'est peut-être pour ça, là, mais moi, je suis du genre à aller checker toutes, là, les challenges, puis après ça, je m'en choisis un, puis là, oui, je peux passer beaucoup de temps dessus, mais il y a comme une étape butinage, pareil, tu sais, puis là, comme quand je pense à la recherche, tu sais, souvent, quand tu cherches un petit peu, c'est quoi ton next step?
Non, mais dans la définition des personnages de CTF, là, un grinder peut aller lire les challenges, c'est quoi, avant de se mettre à grinder, là, c'est pas ça, là.
Mais peux-tu essayer 2-3 affaires avant de choisir, finalement, tu sais?
Ben oui, mais okay, tu sais, c'est une tendance, là, c'est comme un spectre, puis t'as deux bouts au spectre.
Ultimement, si t'as passé beaucoup de temps sur un...
Ultimement, si tu abandonnes tout le temps, tu réussiras rien. Tu sais.
Mm-hmm.
Faut que tu te rendes à la fin à un moment donné.
Ouais.
Intéressant. Donc, on va conclure sur ça. On a réussi à le faire en bas d'une heure. Pas trop dispersé. Fait que, médaille à tout le monde. Puis je vous remercie énormément. C'est très le fun ce partage-là, cette discussion-là un peu libre et qui nous permet justement d'éclairer et de un peu de creuser ces sujets-là qui ne sont pas tant parlés que ça publiquement. Fait que je vous remercie énormément de votre générosité et votre contribution.
Merci à toi.
Ça fait plaisir.